Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. La coordination du mécanisme national de suivi réclame des sanctions contre le Rwanda et de sa hiérarchie politico-militaire, allusion faite aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commises à Goma du 26 au 29 janvier 2025. Ceci est contenu dans un communiqué publié hier samedi. Santé, lutte contre le cancer. Une marche de santé organisée hier à Kinshasa pour interpeller la population congolaise sur le risque lié à cette pathologie. Une initiative du ministère de la Santé publique à travers le Centre national de lutte contre le cancer. Et puis, l'invité de ce matin, Josaphat Marquis, coordonnatrice du réseau des femmes de médias du Tanganyika. Elle explique comment son ONG s'implique dans la lutte contre la prolifération des fake news sur les réseaux sociaux. Madame, Messieurs, bonjour. D'abord cette nouvelle. Le gouvernement affirme avoir recensé au moins 773 morts et 2880 blessés dans les structures des soins à la suite de l'attaque perpétrée par le M23 dans la ville de Goma au Nord Kivu. Le ministre de la Santé a livré ces chiffres samedi lors du briefing de presse qu'il a co-animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Muyaya. Devant la presse, Roger Kamba a précisé que ces chiffres ne sont pas exhaustifs puisque d'autres décès et blessés n'ont pas pu atteindre les structures hospitalières. Il dit compter sur l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF, pour faire parvenir les kits et des médicaments en faveur des blessés militaires et civils à Goma et ses environs. Le ministre Roger Kamba, dans ses propos recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Nous avons, en quelques jours, vu monter le nombre de blessés de manière dramatique dans nos structures de soins. Malheureusement, les chiffres que je vais donner sont les chiffres qui sont dans les structures de soins, mais nous savons qu'il y a beaucoup de personnes blessées, beaucoup de personnes décédées qui ne sont pas arrivées dans les structures de soins. Ainsi, en 4 jours, nous avons déploré plus de 773 morts dans les structures de soins. Je précise encore que nous ne comptons pas les blessés et les morts qui ne sont pas arrivés dans nos structures, parce que nos propres travailleurs, nos prestataires, sont soumis à la même pression que la population. Mais Dieu merci, ils sont au travail, ils essaient d'être au travail, même si eux-mêmes aussi sont ciblés. Par contre, par rapport au nombre de blessés, toujours dans les 4 jours, nous sommes arrivés à 2880 blessés dans les structures de soins.
Le ministre de la Santé demande aux Congolais et aux personnes de bonne volonté de donner leur sang pour sauver les vies dans l'est du pays en proie à l'agression. Par ailleurs, le moment est venu de passer des condamnations formelles et des dénonciations sans conséquence à des véritables sanctions à l'endroit du Rwanda et de sa hiérarchie politico-militaire. Cette déclaration du professeur Ntumba Luaba apparaît dans un communiqué publié samedi 1er février, alors que le monde entier a les yeux braqués sur les conditions préoccupantes dans lesquelles se retrouve à ce jour la ville de Goma après l'incursion de l'armée rwandaise et du M23. En sa qualité de coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Ntumba Luaba interpelle les garants de cet accord. Billy Van Lutumba.
Ces sanctions que réclame la coordination du mécanisme national de suivi, c'est à cause des crimes de guerre et contre l'humanité commis sur le sol congolais du 26 au 29 janvier 2025 à Goma, souligne le communiqué. Au nombre des crimes commis dans la ville de Goma, il cite le carnage et massacre inqualifiable, la poursuite d'assassinats ciblés, les coupures d'eau et d'électricité, le bombardement des hôpitaux et des camps des déplacés et les exécutions sommaires. D'où cette interpellation formulée à l'égard des organisations régionales et sous-régionales engagées dans la résolution et pacifique dans les états de la région des Grands Lacs ainsi que leurs animateurs. Le Rwanda a ignoré et piétiné tous les engagements des états de la région au titre de l'accord cadre d'Addis Abeba, notamment le respect de l'intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires internes des pays voisins, accuse Ntumba Luaba. Exigeant le retrait des troupes rwandaises de la RDC et la tenue urgente d'une réunion des garants de l'accord cadre, le coordonnateur du mécanisme s'interroge sur le report sans cesse du 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba par le président Kaguta Museveni de l'Ouganda. Le mécanisme national de suivi sollicite ainsi l'engagement des garants de cet accord à obtenir la convocation des réunions urgentes des institutions qu'il représente au niveau de l'accord cadre ainsi que la tenue urgente de la 2e réunion quadripartite et EAC, CEAC, CIRGL, SADC sous l'égide de l'Union africaine.
Et puis, face à l'agression répétée du Rwanda, le peuple congolais n'acceptera plus jamais l'inacceptable. Message contenu dans un communiqué publié jeudi 30 janvier par le comité laïque de coordination qui condamne avec fermeté les attaques répétées du territoire national par le Rwanda sous la couverture, dit-il, des soi-disant rébellions congolaises qui n'ont cessé de changer de sigle depuis 30 ans. Tenez, Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, Mouvement du 23 mars M23 et Alliance du fleuve Congo AFC. On écoute à ce sujet Maître Emery Lukombo, porte-parole du CLC, dans cet extrait choisi par Jude Mystère Bilanda.
Le CLC soutient totalement les forces armées congolaises et FARDC dans leur détermination à protéger l'intégrité de notre territoire. Car la préservation de la souveraineté nationale n'est pas négociable. Le CLC appelle la population à être vigilante et à résister à toute forme de manipulation. Le CLC salue les nombreux appels à la cohésion nationale et il les soutient avec force. Il préconise que le fond de notre mobilisation nationale se concrétise dans l'immédiat au niveau civil par un grand élan de solidarité envers les victimes de l'Est. Le seul se fait appel à un élan panafricain et mondial de solidarité en faveur des victimes de l'Est du Congo, particulièrement celles des Goma.
De son côté, la population du Kasaï central dit non à l'agression de la RDC par le Rwanda à travers le M23. Elle a exprimé à travers des manifestations des rues organisées hier samedi à Kananga. Deux marches ont eu lieu dans la ville, dont l'une initiée par la société civile avec l'appui du gouvernement provincial et l'autre par le député national John Kabea. Une façon pour tous de soutenir les FARDC, de dénoncer l'occupation de Goma par les rebelles et l'inaction de la communauté internationale. S'exprimant devant les manifestants, le gouverneur de province qui a pris part à la marche a salué cette action, une occasion pour Moïse Kambulu d'appeler les jeunes à s'enrôler dans l'armée congolaise pour l'intérêt du pays. On écoute le gouverneur du Kasaï central dans ses propos recueillis par François Kadima.
Voici l'occasion pour moi de vous remercier tous pour avoir accepté de répondre à l'invitation qui vous a été lancée à venir notre soutien au chef de l'État pour tous les efforts qu'il ne cesse de consentir pour préserver l'intégrité territoriale de notre pays, mais aussi accompagner et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo et tous nos frères qui sont au front et qui, comme vous le savez, payent un lourd tribut pour défendre notre patrie aujourd'hui agressée par le Rwanda. La marche d'aujourd'hui, c'est pour prouver à la face du monde que le Kasaï central condamne avec la dernière énergie la barbarie du Rwanda. C'est aussi l'occasion pour moi de revenir sur l'invitation appelant la jeunesse, notre jeunesse, à aller se faire inscrire à notre académie militaire.
Toujours dans le cadre de soutien aux FARDC, le gouvernement provincial de la Tchopo lance la collecte des fonds en vue de soutenir l'armée dans l'est du pays. Cette initiative est annoncée dans un communiqué publié par le protocole d'État du gouvernorat de province. Cependant, aucune autre précision y relative n'est encore connue. Dans le même registre, le gouvernorat de la province du Bas-Ouélé a lancé la même opération hier samedi à l'esplanade de la Caisse d'épargne du Congo, Kadeko Bouta. À cette occasion, le gouverneur du Bas-Ouélé, Mike David Mokeni, a effectué le premier versement dans le compte ouvert à cet effet. Entre-temps, à Bénéville et territoire, les coordinations de la société civile annoncent pour demain lundi et mardi deux jours de manifestation pour dénoncer ce qu'elles qualifient d'agression rwandaise dans l'est de la RDC à travers le M23. Les organisateurs appellent à des actions pacifiques sans violence pour soutenir les efforts du gouvernement à travers les forces armées de la RDC. Marc Marofimbo, reportage.
En ville comme dans le territoire de Beni, les coordinations de la société civile appellent à deux journées ville morte lundi et mardi prochain. C'est pour dire non à l'avancée des rebelles du M23 dans les entités de la partie est du pays. Au regard des dernières manifestations à Kinshasa qui ont tourné en des scènes de pillage, les organisateurs demandent aux manifestants de ne pas recourir à la violence sous quelle forme que ce soit. Ce samedi, la nouvelle société civile du groupement de Basongora Kassindi a réuni par exemple tous les responsables des mouvements citoyens, des groupes de pression et de la jeunesse jeunesse. Objectif, sensibiliser la population à des actions pacifiques. Denis Kalenga, son coordonnateur, explique.
Chez nous, on n'a pas voulu que ça soit comme c'était le cas à Kinshasa, mais nous avions voulu organiser une marche qui sera pacifique du début jusqu'à sa fin, juste pour dénoncer cette situation injuste que nous sommes en train de faire face actuellement. On sensibilise la population, on leur montre les conséquences. Si une fois on se désoriente à ce qui est l'objectif, nous allons mettre toutes les batteries en marche afin que les dérapages ne soit pas observé.
Dans la ville de Beni, la même sensibilisation de la population a été organisée ce même samedi, toujours dans l'objectif d'éviter des manifestations déviant de leur objectif, à savoir dénoncer l'agression du pays et soutenir les FARDC. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Santé. En marge de la journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février de chaque année, le ministère de la Santé publique à travers le Centre national de lutte contre le cancer, CNLC, a organisé hier une marche de santé pour interpeller la population congolaise sur le risque lié à cette pathologie. C'est également pour sensibiliser sur la prise en charge et les mesures de prévention de cette maladie. Détail dans ce reportage de Blaise Ndongala Maenda.
Partie de la place des évolués, commune de la Gombe, cette marche initiée par le Centre national de lutte contre les cancers a eu comme point de chute l'esplanade du Palais du Peuple, commune de Lingwala, en passant par l'avenue de Libération ex 24 novembre. Habillé en t-shirt blanc, sur lequel on pouvait lire « Unis pour l'unique », les participants à cette activité ont tenu à alerter les Congolais sur les risques du cancer, comme expliquent les coordonnateurs du Centre national de lutte contre les cancers. Bienvenue les Boisés.
On a voulu inaugurer les mois par une marche de santé en sensibilisant les différentes couches de la population par rapport au problème de santé qui est le cancer. Et le CNLC va continuer à faire des efforts pour que, en mettant au-delà des médicaments, des kits pour la chirurgie, pour les soins palliatifs, etc., le gouvernement va continuer à soutenir les familles à travers le CNLC.
Pour sa part, la coordonnatrice de l'ASBEL Espoir pour elle a encouragé la population à se faire dépister précocement du cancer pour éviter toute complication.
Nous voulons encourager la population d'avoir les bons réflexes, de faire les dépistages.
Les organisateurs de cette activité ont par ailleurs saisi cette opportunité pour donner de manière bénévole leur sang aux forces armées de la RDC et autres victimes de la guerre de l'Est en réponse à l'appel du gouvernement via le ministère de la Santé publique.
Rendons-nous au Maniema. Une équipe des agents de la Direction d'études et planification du secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté séjourne à Kindu ce week-end pour accompagner les acteurs éducatifs provinciaux dans l'élaboration des plans d'action opérationnels, ce avec l'appui de l'UNESCO. On écoute à ce sujet Célestin Isimba, chef de division à la Direction d'études et planification au ministère de l'Éducation nationale, propos recueillis par Florence Kizalunga.
Je veux souligner que notre système éducatif a eu un pacte de partenariat avec le partenaire mondial pour l'éducation. C'est avec le GPE qu'on a aussi mobilisé quelques ressources et nous sommes venus avec l'appui technique de l'UNESCO pour accompagner les acteurs éducatifs provinciaux dans leur processus d'élaboration de plans d'action opérationnels. Et nous allons insister aussi beaucoup plus sur la planification sensible aux gens. On va montrer aux acteurs éducatifs provinciaux comment lutter contre les aspects genre, les inégalités, les violences basées sur le genre. Donc, c'est tous les acteurs éducatifs de toutes les sous-divisions qui vont venir. Et nous allons associer aussi les secteurs, parce que nous sommes dans un secteur de l'éducation. Il y a l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et affaires sociales. On va réunir tous les acteurs éducatifs pour leur montrer comment bien réaliser leurs activités pendant l'année 2025. Nous visons qu'il y ait une gestion axée sur les résultats. Il faut que les provinciaux sage comment mobiliser les ressources pour des bons résultats dans le système éducatif au niveau de la province du Maniema.
Actualité internationale. Nous sommes au Soudan. Plus de 50 personnes tuées et plus d'une centaine d'autres blessées samedi dans un bombardement contre un marché à Omdurman, près de Khartoum, la capitale du Soudan. Bombardement attribué aux paramilitaires soudanais FSR, rapporte une source médicale à l'AFP. La source à l'hôpital Al-Nao, qui a requis l'anonymat, a indiqué que l'établissement était débordé et avait besoin de davantage d'unités de sang et d'équipements pour soigner les blessés. Le FSR, dirigé par Mohamed Hamdan Daglo, a démenti avoir mené le bombardement.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Josaphat Marquis, coordonnatrice du réseau des femmes des médias du Tanganyika, Refemet. Elle explique comment son ONG s'implique dans la lutte contre la prolifération des fake news sur les réseaux sociaux. Elle fait savoir que les réseaux sociaux sont devenus actuellement une source de désinformation par excellence. Josaphat Marquis s'entretient avec Paulin Munanga.
Madame Josaphat Marquis, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous constatons que les Refemet s'activent ces derniers temps dans la lutte contre la prolifération des fake news sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager sur cette voie?
Depuis que la province du Tanganyika a connu vraiment les atrocités, les conflits intercommunautaires à Toubantou, nous nous étions déjà activés pour sensibiliser la population sur ces conflits-là. Et on a remarqué, après l'état des lieux, que beaucoup de femmes sont impliquées dans les conflits, alors que ces femmes-là peuvent nous aider aussi dans la pacification. C'est ainsi que depuis un temps, on avait déjà commencé ça. Maintenant, en impliquant les femmes, nous avons reçu l'appui des ONU Femmes pour le programme Femmes, Paix et Sécurité. Et à travers ça, nous diffusons le message sur la paix et la sécurité. Mais depuis un moment, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de messages qui viennent comme de fausses informations. Nous avons fait appel à CARE International, qui est venu nous former sur le fact-checking.
C'est-à-dire?
Le fact-checking, c'est-à-dire comment détecter une mauvaise information sur les réseaux sociaux. Et on a eu au moins l'équipe de 10 personnes avec des brevets à l'appui, membres de Refemet, qui ont été formés pour voir comment checker les fausses informations à travers les programmes de fact-checking.
Comment vous parvenez à checker les fausses informations concrètement?
D'abord, l'équipe a été formée sur ce programme de fact-checking. Maintenant, chacun peut avoir son téléphone. Avec son téléphone, il a un compte Facebook, Google, WhatsApp et consorts. À travers son compte-là, s'il voit une publication de ses amis ou bien les publications que le réseau nous propose souvent, il peut directement activer les stratégies selon la formation. Et une fois qu'on intègre ces stratégies de vérification, automatiquement sur cette page-là, la page que la personne est en train de lire, on note faux. Faux, c'est en rouge d'ailleurs et en majuscule. Une fois que la réponse revient, c'était dans l'attente avec la connexion, vous mettez les codes et ça vous retourne avec faux. Automatiquement, nous remarquons que cette information est une fake news. Alors, à ce moment-là, on fait la capture et on se partage. Nous avons un groupe WhatsApp. Automatiquement, on met sur les réseaux sociaux aussi. Nous avons notre page Facebook, nous avons notre page Twitter. On met ces informations-là pour faire comprendre aux gens que, malgré qu'on a eu des rumeurs, mais par rapport à tel élément, c'est une fausse information. Ça aide directement à contredire ce qui est allé dans la communauté rapidement. À part notre page, nous sommes aussi abonnés à d'autres pages, mais on est aussi dans le monde des communications. Nous travaillons avec d'autres groupes. Ça veut dire à travers les réseaux sociaux. Nous utilisons toutes les plateformes de nos réseaux sociaux pour partager ça.
Et que reprochez-vous aux réseaux sociaux et quel danger présentent ces médias d'après vous?
Moi, je peux dire que ce sont des informations qui sont traitées par les gens qui ne sont pas professionnels. C'est tout le monde qui s'est fait maintenant journaliste, tout le monde qui s'est fait informateur. Or, il y a des principes pour informer. On parle toujours du traitement de l'information. Aller récolter, traiter l'information avant de faire quoi? Vérifier les sources, confronter les sources avant de présenter une information. Mais pour les réseaux sociaux, c'est du tic au tac. On ramasse, on contribue même, on est des vecteurs des fausses informations. On partage même. C'est ça la faiblesse que moi je retrouve au niveau des réseaux sociaux pour les personnes responsables, les vrais communicateurs. On ne doit pas partager n'importe quoi parce que moi, je suis dans la communauté. Je reçois automatiquement, je partage sans vérifier. Je désinforme aussi beaucoup de gens. Et comme avec le numérique, le monde numérique aujourd'hui, les informations partent rapidement.
En cette période où la RDC est agressée, il y a une guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Quelles sont vos actions que vous menez en rapport avec la lutte contre les fake news sur les réseaux sociaux?
D'abord, par rapport à la lutte, nous amplifions seulement, nous intensifions nos actions. Nous, on avait déjà des actions, je vous ai parlé du programme Femmes, Paix et Sécurité. C'est-à-dire, on est déjà dans la sensibilisation sur la femme, la paix et la sécurité. Et ce qui se passe à l'Est, c'est juste l'agression. C'est un problème aussi sécuritaire. Maintenant, à cette étape, nous amplifions. Nous avons la connexion gratuite ici, que nous avons mis au profit de nos agents. Nous voulons que chaque personne qui est avec nous ici puisse vérifier la vraie information ici et la relayer ailleurs. Maintenant, on multiplie. La multiplication, c'est fait comment? À part les réseaux sociaux, les messages. Nous produisons les messages ici chez nous, les messages audio des sensibilisations, mais aussi des mobilisations de la population par rapport à notre pays.
Madame Josaphat Marquis, merci.
C'est moi qui vous remercie.
La coordonnatrice du réseau des femmes de médias du Tanganyika répondait aux questions de Paulin Munanga. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda, mis en onde par Jean-Claude Siala. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.